Je vais vous présenter aujourd'hui quelque chose sur l'utilisation des nouvelles technologies dans les communautés tcherkesses et plus généralement en contexte diasporique. Alors, le terme tcherkesse sert en Occident à désigner le peuple du même nom, mais par glissement sémantique, il est parfois utilisé comme catégorie générique pour désigner un ensemble plus large de peuples du Nord-Caucase. Et le peuple tcherkesse se définit lui-même par le mot « adig », que je traduis par « adigéen », et va y accoler en règle générale une filiation tribale. Le peuple tcherkesse, pour rappel, se divise en 12 tribus. Chacune de ces tribus possédait dans le Caucase une localisation spatiale particulière, un dialecte bien à lui et des instances de pouvoir locales. Interne à chaque tribu. Et par ailleurs, je reviendrai dessus un peu plus tard, mais les tribus vont suivre des chemins de migration différents pendant l'exode. Le peuple tcherkesse est originaire du Nord-Caucase. Leur présence est avérée dans la région depuis le VIe siècle. Ils sont animistes dans un premier temps, puis ils vont être brièvement convertis au christianisme sous influence byzantine et géorgienne. Et enfin, ils vont devenir musulmans à partir du XVIIe siècle, et d'abord par la conversion des princes des tribus qui vont ensuite convertir les populations qui sont sous leur autorité. Dès lors, à partir du moment où ils deviennent musulmans, ils sont classifiés comme sujets de l'Empire ottoman. Et ça va être déterminant pour la suite de leurs aventures. À la fin de la guerre qui oppose la Russie tsariste à l'Empire ottoman, après plus de 80 années de combat entre les peuples du Nord-Caucase et les Russes, la victoire russe sonne dans un premier temps l'occupation du Caucase, l'implantation de garnisons cosaques et un plan d'épuration ethnique. Les Tcherkesses qui vont survivre, ainsi que d'autres populations, mais moi c'est vraiment la population sur laquelle je travaille, vont se trouver face à un choix qui n'est pas vraiment un choix, à savoir soit prêter allégeance au tsar Nicolas Ier et s'installer là où les autorités russes les contraindraient, soit se convertir, soit prendre les chemins de l'exode. Donc, en raison d'une part des liens confessionnels qui unissaient Turcs et Tcherkesses, en raison aussi de la présence de nombreux Turcs d'origine tcherkesse en Turquie, mais aussi parce que l'Empire ottoman avait une politique d'implantation et qu'elle avait besoin de ces populations dans des zones conflictuelles, et donc a été le seul empire à vraiment proposer une aide à ces populations, les Tcherkesses, à partir du 25 mai 1864, vont prendre les chemins de l'exil. L'essentiel des Tcherkesses sont donc disséminés dans un empire avec des frontières très vastes, très floues. Et en 1880, alors qu'au lendemain de nouveaux conflits dans les Balkans, sous autorité ottomane, après avoir passé plus de 10 ans à la frontière gréco-bulgare, le groupe de Tcherkesses installé là va à nouveau être contraint de rechercher une nouvelle terre d'accueil. Donc certains vont emprunter les voies terrestres, tandis que d'autres vont débarquer en Palestine par les ports de Kissaria et Akko en 1880. La majorité des individus qui prennent ces chemins de migration sont de 4 tribus tcherkesses, la tribu Bjadour, la tribu Kabard, mais majoritairement la tribu Abzar et la tribu Chapsour. Et on va voir que ça a une importance parce que c'est ces populations-là qu'on va retrouver d'abord dans les plateaux du Golan et ensuite en Israël. La diaspora tcherkesse aujourd'hui, on l'évalue à 4000 individus. Alors, si on prend les chiffres du Bureau central des statistiques, on dénombre 2885 tcherkesses à Kfar Kama en 2010. Les données pour Rehania, le deuxième village, ne sont pas disponibles parce que c'est un tout petit village qui appartient au conseil régional Merom à Galil. Donc les données disponibles concernent le conseil régional. Mais selon le maire du village, en 2010, il y avait 1042 tcherkesses dans le village. Donc cette communauté est répartie en Israël uniquement dans deux villages, majoritairement dans deux villages, Donc Kvarkama, qui est... Non, c'est pas ça. C'est ça. Kvarkama, qui est en Galilée inférieure, dans le district de Tiberia d'Erehania, qui est à 3 km de la frontière libanaise, dans le district de Tzfat. C'est une minorité qui a un exemple un peu particulier en Israël, puisqu'il s'agit de musulmans non arabes, mais caucasiens, qui revendiquent une citoyenneté israélienne pleine, notamment à travers la participation à l'armée, qui conservent des éléments culturels très, très prégnants, et qui, il faut bien l'avouer, bénéficient d'une intégration citoyenne, alors certes relative, mais bien meilleure que celle accordée à l'ensemble des citoyens non-juifs d'Israël. Donc ils sont israéliens, mais ils ne sont pas juifs, ils sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Ce sont des traîtres hein, pour les uns, ce sont des citoyens de seconde zone pour les autres, et les Tcherkesses... d'Israël, c'est vraiment là-dessus que j'ai concentré mes recherches, peinent à trouver leur place face à ce que j'appelais les deux titans identitaires. Et en termes de catégorie, l'exemple de la carte donnée par Adoram est assez significatif. C'est-à-dire qu'on parle d'une Galilée à 50% arabe, à 50% juif, et qui effectivement n'est pas suffisant pour un certain nombre de populations, dont les Tcherkesses, qui sont ni arabes ni juifs. En fait, les Tcherkesses vont arriver en Israël et dans les plateaux du Golan. Va se dessiner un grand ensemble de 14 villages Tcherkesses, donc avec Kvarkama et Rehania, et aussi ces 12 villages-là. Alors, je dois juste donner une petite explication sur cette carte. Il est assez difficile de trouver la trace de ces villages, d'une part parce que certains d'entre eux ont été arabisés. Momsia, que vous voyez là, va notamment devenir Razanié avec l'arabisation syrienne, et Sourman va devenir Adnanié. Donc il est assez difficile de trouver la trace. Et ensuite, après l'annexion du Golan par Israël, certains de ces villages vont être détruits. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver cette trace. Donc cette carte que je vous montre, elle a été effectuée avec les témoignages des anciens, des communautés du Golan, qui sont maintenant en Syrie, aussi d'Israël, de Jordanie et de France. Et donc, elles suivent leurs indications, c'est-à-dire qu'en gros, ils m'ont dit, tu Akounetra, tu descends 3 km dans le sud, tu vas un peu à droite, tu trouves le premier village, après de ce village-là, tu reprends un petit peu à gauche, etc. etc. Donc, c'est une carte qui est soumise, voilà, qui ne se contente d'être uniquement des interprétations. L'isolement diplomatique, pour revenir sur mes Tcherkesses, l'isolement diplomatique d'Israël dans l'ensemble proche-oriental a naturellement un impact sur la totalité de ses habitants, y compris lorsqu'il concerne des populations dispersées au-delà des frontières politiques. Alors c'est le cas bien connu pour les Palestiniens, mais aussi pour les Druzes et également pour les Tcherkesses. Privées de leur terre d'origine, en fait, toutes ces populations, elles doivent composer avec les bouleversements historiques et les recompositions géopolitiques, la chute des empires et le découpage en empire, le découpage moderne en état-nation. Ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, elles vont jouer un rôle majeur dans le maintien et voire même dans la création de ces liens diasporiques. Et on va voir comment ces nouvelles technologies ont fini par placer la communauté tcherkesse d'Israël au centre du réseau tcherkesse global. Alors, en ce qui concerne ces nouvelles formes de communication, elles passent par des supports très divers. Elles répondent à des exigences différentes, qu'elles soient utilisées pour de simples communications personnelles ou pour présenter le groupe à l'extérieur ou encore pour valoriser ou légitimer un groupe par rapport à l'autre. Donc en règle générale, les maillages amicaux ou familiaux s'inscrivent dans l'utilisation de messageries instantanées de type Skype ou MSN, grâce auxquelles on peut discuter en direct, de plateformes publiques comme le désormais célèbre Facebook, et je vais revenir sur Facebook parce que ça a eu un intérêt assez fort dans mes recherches sur les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, si on jette un regard rapide sur les pseudonymes utilisés par ces internautes, ils montrent qu'ils sont ethniquement très marqués, enfin, qui sont perçus au moins par les acteurs comme étant très marqués. Et donc, on ne compte plus les Adiga Girls et les Circassian Men qui pullulent sur la toile. Mais dans ce cas précis, il s'agit juste de remplacer les instruments traditionnels, à savoir le courrier postal ou le téléphone, par de nouveaux outils dont l'intérêt principal réside dans sa gratuité. L'intégration aussi quasi systématique de webcam aux ordinateurs permet aussi souvent de voir la famille, malgré la séparation. À Kfar Kama, il existe un groupe qui s'appelle les Jordaniens de Kfar Kama. C'est un groupe de 9 personnes, composé de personnes de Tcherkesses de Jordanie, arrivées en Israël, au village à Kfar Kama, par alliance matrimoniale. Et c'est notamment en les fréquentant que je me suis rendu compte de l'intérêt de Skype, de MSN dans la communauté. Et l'une d'entre elles, alors depuis la paix avec la Jordanie, c'est effectivement un peu plus facile, sauf que pour le mariage de l'une d'entre elles, il y a 2 ans, toute sa famille s'est vue refuser le droit d'entrer sur le sol israélien. Donc personne de sa famille était là pour son mariage. Et c'est quelqu'un qui, du coup, a développé une très grande addiction à ces nouvelles technologies, de façon à pouvoir communiquer de façon quotidienne avec sa famille. Elle me disait elle-même, quand j'habitais à Amman, j'appelais ma mère une fois tous les 15 jours. Depuis que j'habite en Israël, j'appelle ma mère 10 fois par jour. Et ce qu'elle me racontait, c'est qu'effectivement, il ne se passe rien de formidable dans ces conversations. Généralement, on se montre ce qu'on est en train de manger, le dernier livre qu'on est en train de lire. C'est vraiment recréer une quotidienneté à travers l'image. Par contre, les pratiques de groupe, elles vont trouver un nouvel espace d'échange sur la toile. Donc, il y a un nombre impressionnant de blogs tcherkesses, de forums, de sites communautaires. Là, dans ce cas-là, il s'agit de maintenir le lien, de faire connaître les communautés et aussi de mettre en commun des savoirs, des techniques et des informations et des nouvelles. Et c'est particulièrement important pour un peuple qui vit en dispersion et qui est un peuple de tradition orale, qui n'a mis à l'écrit son histoire qu'à partir de la fin des années 60. Et donc il faut juste rappeler qu'aujourd'hui encore l'état de dispersion demeure, parce que les Tcherkesses vivent au 4/5e en diaspora, donc en dehors de la terre d'origine du Nord-Caucase. Et l'absence d'un territoire national reconnu pose d'ailleurs le problème de l'impossibilité de penser le retour collectif, qui par ailleurs est un peu fantasmé, ce retour collectif. Il reste le fait de trajectoires individuelles. Pour le moment, à part un exemple de Tcherkesse du Kosovo, qui pendant la guerre, le village entier a été transféré dans le Caucase, à part cet exemple-là, toutes les migrations dans le Caucase répondent vraiment à des trajectoires individuelles. Et d'ailleurs, un des sages du village, un Tramada de Kfar Kama, n'hésitait pas à déclarer, alors en entretien, mais il l'a aussi fait à la télévision israélienne, que les conditions des Tcherkesses en Israël étaient suffisamment bonnes et qu'il n'avait aucune envie de retourner dans le Caucase, et revenait un peu sur le mythe du retour collectif. Le développement de ces nouvelles technologies a favorisé l'émergence d'une conscience nationale auquel l'espace virtuel va offrir une solution, puisqu'il crée un nouveau territoire. C'est un territoire transnational qui est tissé de liens et de réseaux sans ancrage géographique particulier, mais surtout accessible par tous et où chacun va pouvoir y tenir un rôle. Donc, concernant mes recherches sur ces pratiques dans les diasporas tcherkesses du Proche-Orient, Facebook a été assez éclairant. Le premier niveau d'utilisation relève de pratiques personnelles, comme on l'a vu auparavant, mais s'inscrit aussi dans la construction d'un espace collectif par la construction de groupes. L'occurrence tcherkesse, par exemple, sous ses différentes formes, Adig, Adiga, tcherkesse, Circassian, Circassians, fait apparaître en 2010 pas moins de 1084 groupes affiliés aux tcherkesses. Alors certains groupes concernent directement les tcherkesses, d'autres s'inscrivent dans des sphères ou des champs ou des espaces, je ne sais plus trop quoi utiliser maintenant, comme une zone géographique. Donc on va trouver pléthore de groupes Kafkaz My Homeland, ou My Roots Are in Kafkaz, ce genre de groupe-là, ou des événements connexes, comme le groupe 21 mai 1864, Souvenons-nous du génocide, mais aussi des groupes qui concernent pas uniquement la communauté, mais la région du Nord-Caucase en général. Et c'est notamment le cas autour de la grosse mobilisation qui se tient contre la tenue des Jeux Olympiques à Sotchi en 2014, terre considérée comme étant celle où ont eu lieu les massacres. Et donc il y a une très grosse mobilisation dans les diasporas tcherkesses. Dans la majorité des cas, ces groupes sont des groupes ouverts, c'est-à-dire que n'importe quel internaute peut les rejoindre, peut regarder les photos qui sont postées et lire les commentaires. D'autres, ils sont moins nombreux, sont privés et comportent une mention « for Circassians only » qui nécessite de demander au créateur du groupe l'autorisation d'y adhérer. En fait, le questionnaire adressé par l'administrateur du groupe en fait, ne comporte souvent qu'une seule question, qui est posée en anglais d'ailleurs, et qui est « Quelle est votre tribu d'origine ?» Donc son auteur, j'imagine, considère comme un moyen subtil de savoir s'il a vraiment affaire à un tcherkesse. Elle est donc adressée en anglais, et cette question fait mine d'ignorer qu'une rapide recherche sur Internet permet de connaître, si ce n'est toutes les tribus, au moins les tribus principales. La question de la langue de communication n'est d'ailleurs pas sans poser problème, et si la plupart des énoncés des groupes sont en anglais, alors on en trouve en russe, en tcherkesse, en arabe, en hébreu et surtout en turc, qu'il est toujours possible d'utiliser cette langue pour communiquer, on note que la langue principale utilisée demeure celle du pays de résidence. Donc les tcherkesses de Syrie et de Jordanie vont naturellement utiliser l'arabe, alors que les tcherkesses d'Israël privilégieront l'hébreu, ce qui, au demeurant, n'est pas tellement surprenant pour la communauté tcherkesse, puisque nombre d'entre eux parlent l'arabe, peu l'écrivent. Et donc, il en est de même pour la connaissance du tcherkesse, qui, si elle est très bonne dans sa forme parlée dialectale, reste sommaire à l'écrit. Donc finalement, l'hébreu, c'est la langue des tcherkesses d'Israël. Pour les groupes extra-nationaux, comme Circassian Lobby, qui regroupe 3000 membres, l'essentiel des messages qu'on peut lire est en anglais et en turc. Et l'utilisation de la langue turque est d'ailleurs problématique, parce qu'elle exclut de fait tous les non-turcophones, à savoir 4/5 des tcherkesses. Et c'est d'ailleurs souvent remarqué sur les forums par des membres qui n'hésitent pas à demander le passage par l'anglais. Ou par le tcherkesse, ce qui par ailleurs serait également discriminant dans la mesure où la plupart des tcherkesses qui résident en dehors du Nord-Caucase ne lisent pas le tcherkesse. Alors sur Facebook, il y a un groupe qui a particulièrement retenu mon attention, qui a été créé par un tcherkesse qui habite aux États-Unis, mais qui concerne directement les communautés du Proche-Orient. Et ce groupe porte un nom assez explicite, Circassian Support Israel to Burn All Palestinians. Donc ce groupe a disparu de la toile quelques jours après avoir été diffusé. Et c'est ce groupe évidemment ouvertement anti-palestinien, dont le nombre de membres n'a jamais vraiment décollé, et quand on fait une étude géographique de ses membres, on se rend compte qu'ils sont finalement pas tant de la communauté tcherkesse d'Israël que des tcherkesses des États-Unis, voire d'autres pays, mais essentiellement des États-Unis et de Turquie. C'est un groupe qui est né en réponse à une vidéo qui a été postée sur YouTube d'un auteur qui se présente comme un Palestinien vivant lui aussi aux États-Unis. C'était une vidéo en deux parties qui prenait un discours d'une violence assez rare contre les tcherkesses, considérés par ce jeune homme comme, je cite, des musulmans aidant les sionistes à tuer des musulmans. Cette vidéo, elle a suscité beaucoup d'émoi dans la communauté tcherkesse, qui a été accusée donc publiquement de traîtrise et qui a fait place à de nombreuses réponses, toujours sur l'espace virtuel. Et face à ce qui a été ressenti comme un véritable affront, on a assisté à un déchaînement un peu disproportionné de commentaires et qui ont suscité beaucoup de débats entre tcherkesses et palestiniens, ou en tout cas entre personnes se présentant comme tcherkesses et personnes se présentant comme palestiniennes. La première réponse des tcherkesses va s'appeler « La vérité concernant les tcherkesses ». Donc là, je vous ai mis trois captures d'écran uniquement. C'est une vidéo qu'on trouve aussi sous le nom de Génocide Tcherkesse 21 mai 1864, qui est une production en hébreu. Elle reprend les points principaux de l'histoire, de l'exil, de la dispersion. Et son objectif principal demeure l'explication de la présence des Tcherkesses en Israël. C'est le but avoué de cette vidéo. Cet échange qui est, voilà, cette réponse, en fait, cet échange violent aurait pu s'arrêter là si les deux parties ne s'étaient pas mises à recevoir des commentaires nombreux de soutien, juifs israéliens et tcherkesses pour les tcherkesses et musulmans pour celui qui s'appelle Memfian et qui se rebaptisera plus tard Red Mujahid quand YouTube décidera de clore son compte. La seconde réponse faite à Memfian, donc là je vous ai fait une sélection des meilleures images, s'intitule « Réponse à Memfian ». Elle exprime la colère suscitée dans une partie de la communauté et en particulier chez les plus jeunes, donc sous forme de chanson et cette fois en arabe. Elle met en scène Memfian sous forme de photomontage qu'il représente donc comme un bon Américain, comme un bon Américain serrant la main de George Bush. Et en fait, juste pour détail, une rapide recherche de fond photographique permet de se rendre compte que la tête de Memfian a été posée sur le corps d'Ariel Sharon, en fait. Ou sinon, il apparaît sous les traits donc, d'un porc. Et les dernières images de cette vidéo montrent des dessins de guerriers, donc en habit traditionnel, brandissant un sabre et sur le pic duquel se trouve la tête tranchée de Memfian. Donc il s'agit clairement d'une mise en scène de la vengeance et du droit du sang, mais aussi une mise en scène de la virilité supposée de l'homme guerrier tcherkesse. Mais il y a d'autres vidéos, toujours dans cet échange virtuel, qui vont aller un peu plus loin. Et je pense notamment à un montage de vidéos. Alors la traduction, elle est là. Donc c'est un montage de vignettes en langue arabe qui est censé s'adresser aux Palestiniens et qui reprend ouvertement une rhétorique sioniste classique. Donc traduction très, très sommaire qui pourra être corrigée par nos amis arabophones. « Peuple de Palestine, élève-toi et brille. » Vous pensez encore être des victimes d'une conspiration sioniste. La conspiration que vous devez craindre est la conspiration arabe. Qui a conseillé aux Arabes de 48 de quitter leur maison en leur promettant qu'ils seraient de retour quelques jours après? Et quand le plan n'a pas fonctionné, qui a placé des milliers d'entre vous dans des camps de réfugiés, vous ont traités comme des animaux et vous ont donné des documents de voyage pour ensuite vous humilier à la frontière? Personne parmi vous ne s'est jamais demandé comment vivent les Arabes israéliens? Bien sûr que non. Et c'est parce que les Israéliens leur ont donné plus de liberté civile que n'importe quel pays arabe. Je crois que c'est... Okay. Les Arabes ont massacré plus de Palestiniens que les Juifs. Non, c'est pas ça. Bon, vous avez vu les slides, c'était les derniers de toute façon. Quelqu'un parmi vous a-t-il vu la moindre manifestation ou condamnation quand ils ont massacré, quand ils vous ont massacré en Jordanie, en Syrie ou au Liban? Et la dernière vignette est « Éduque ton peuple avant de t'autoriser à parler des autres et du mien ». Une autre vidéo qui a beaucoup circulé est la reprise d'une vidéo lambda de propagande israélienne. Il est possible d'en trouver des milliers sur Internet. Et elle est reprise à son compte par l'auteur tcherkesse israélien du montage. Donc il débute sur des images des attaques du Hezbollah de 2006, qui montrent des cadavres, des blessés, des enfants en larmes. Cette vidéo qui se veut instructive est construite sous forme d'accumulation de photographies, d'images, tout explicité par un texte en anglais et qui reprend également des thèmes chers à l'historiographie sioniste, à savoir, par exemple, je cite, qu'il n'y avait pas d'État ou de nation arabe appelée Palestine au Proche-Orient, ni en 48, ni jamais, que les Juifs ont vécu de façon continue en Palestine durant les 3700 dernières années, et que la création de cet État est légitime car, entre guillemets, les Juifs ont été le peuple le plus persécuté du monde. » Donc là, les cartes de l'Empire ottoman, des transformations territoriales, font place aux images macabres de la Shoah, accompagnées par une musique qui amplifie le caractère dramatique et censé bonifier la compréhension. Et la seconde partie du documentaire insiste sur une idée qui est souvent reprise par l'État hébreu lorsque ce dernier est épinglé sur les questions de discrimination des populations non juives. Et cette vidéo va se conclure par « Les Juifs ont fait des Arabes des citoyens d'Israël et leur ont donné des droits. Aujourd'hui, les Arabes qui vivent en Israël ont plus de droits que les Arabes vivant dans n'importe quel pays arabe. » Donc cette propagande anti-palestinienne qu'on trouve souvent, c'est compliqué de dire à droite-gauche, mais à droite de l'échiquier politique israélien, est clairement repris ici à travers des formulations comme « Les Palestiniens se sont vus offrir un État en 48, puis une nouvelle fois en 2000, et à chaque fois ils ont répondu par des agressions armées et des attaques terroristes. » Voilà. Donc... Juste pour conclure, parce que je vois que j'ai plus que 3 minutes. En interne et au sein des communautés tcherkesses, YouTube et Dailymotion vont permettre des échanges, parfois violents aussi, qui ne pourraient pas avoir lieu en réalité, que ce soit à cause de la distance physique ou des règles tacites qui régissent la communauté, en particulier ce qu'on appelle la Diga Khabza, qui est un code moral. En d'autres termes, Internet va permettre de dépasser la parole autorisée par l'utilisation de pseudonymes, par exemple. C'est plus facile de dire les choses derrière un pseudonyme. Donc on va avoir des vidéos classiques d'adolescents de différentes communautés en concurrence sur le meilleur accordéoniste, la meilleure troupe de danse, le meilleur, etc., etc. Mais surtout, ce qui va être important, c'est que les nouvelles technologies vont être utilisées par la communauté d'Israël à titre particulier. C'est la première communauté à avoir saisi l'opportunité des nouvelles technologies. Et il y a un média qui est bien connu des Tcherkesses partout, qui s'appelle Radio Adiga, qui est une radio qui est mise en ligne depuis Kfar Kama, et qui est devenue le référent, la façon d'avoir des nouvelles des Tcherkesses dans le monde. Ce qui est intéressant avec ce cas de Radio Adiga, c'est que la grille des programmes est en différentes langues, contrairement aux médias communautaires qu'il peut y avoir en Jordanie, qu'il y avait même en Israël, qui étaient écrits dans la langue nationale. Là, les grilles de programmes sont proposées en anglais, en arabe, en tcherkesse, quelques-unes en hébreu, mais pas toutes. Et on pourra en discuter pendant, si vous avez des questions, mais notamment autour des sujets politiques, il y a des choses qu'on ne dit pas en hébreu et qu'on dira uniquement en tcherkesse. Et c'est surtout qu'en fait, grâce à Radio Adiga, la communauté tcherkesse, qui tient une ligne minoritaire assez religieuse dans le monde tcherkesse, va devenir le référent identitaire. Et ainsi, tous les tcherkesses qui vont écouter Radio Adiga vont intégrer comme vecteur identitaire l'islam, ce qui n'était pas le cas. Donc, je vous rappelle qu'ils ont été convertis au XVIIe siècle. Mais surtout, et là, ce sera vraiment, vraiment la fin, au-delà d'un contournement de frontières classiques entre pays en guerre, par exemple, les nouvelles technologies ont renouvelé les possibilités de se rencontrer. Donc on voit aussi la Jordanie, hein, qui visiblement, Daniel l'évoquait avec les Libanais, est un peu une plaque tournante des peuples dispersés, où les Tcherkesses d'Israël et de Syrie pouvaient se rencontrer au cours de mariages. Internet va permettre de multiplier les occasions de se revoir. Mais au-delà de ça, la place occupée par la diaspora tcherkesse d'Israël par les nouvelles technologies est particulière autour d'un événement qui s'est passé en 2009. En 2009, Israël est le premier pays à reconnaître le génocide tcherkesse. Et cette reconnaissance officielle publique, qui est marquée par des reportages à la télévision nationale, par le déplacement de ministres dans les villages, doit beaucoup au travail d'information et l'utilisation des nouvelles technologies par la communauté israélienne. Si les tcherkesses de Jordanie, de Syrie et d'Israël peuvent concevoir leur identité tcherkesse, bien que là aussi, je ne fais pas appel à une définition fermée de l'identité, on est tous d'accord. Si ils ont des façons de concevoir ce qu'est être tcherkesse différemment, ils peuvent diverger notamment sur la place à accorder à l'islam. Il y a un point sur lequel tous pourraient parler d'un seul homme, c'est faire connaître et faire reconnaître le génocide. Et finalement, cette mémoire du trauma cette mémoire de la catastrophe autour du génocide va être le lien unificateur entre tous ces Tcherkesses. On pourra revenir dans la question, parce que là j'imagine que j'ai plus le temps, sur les raisons qui ont poussé Israël à être le premier pays à reconnaître le génocide tcherkesse. En deux mots, ça permet, c'est un guise de remerciement pour la loyauté supposée des Tcherkesses et d'autres communautés comme les Druzes à l'État. On sait qu'il y a des politiques de distinction envers les communautés non juives en Israël. D'autre part, la communauté tcherkesse est numériquement trop peu nombreuse pour être un danger démographique ou avoir des velléités d'expansion territoriale. D'ailleurs, dans la présentation, les Tcherkesses font de même, que ce soit dans les circuits touristiques ou dans leur production. La référence à la mère patrie, le Caucase, est omniprésente. Et ça a une résonance positive dans chez le public juif israélien, parce que les Tcherkesses ne revendiquent pas une Palestine historique. Ce n'est pas leur territoire, ce n'est pas leur cause, ce n'est pas leur lutte. Et donc, ça me fait faire le pont avec la troisième chose pour laquelle Israël a pu reconnaître aussi rapidement ce génocide, c'est publiquement marquer la reconnaissance d'une autre catastrophe que la